Je me présente, je suis Lucas Dami, élève de 3e au lycée Jean-Albert Grégoire. Aujourd'hui, nous allons vous interroger sur votre métier. Cette interview va nous permettre de mieux vous connaître et découvrir votre activité. Pourriez-vous vous présenter ?
Eh ben, bonjour, tu as dit Lucas, c'est ça ? Moi, c'est Inès et je suis comédienne marionnettiste. J'ai 28 ans et je travaille pour la compagnie des marionnettes d'Angoulême depuis le mois de septembre 2023. Donc c'est très récent.
Bonjour, je m'appelle Manon, je suis comédienne marionnettiste également et je construis aussi un petit peu les marionnettes. J'ai 29 ans et ça fait 4 ans maintenant que j'ai rejoint la compagnie des marionnettes d'Angoulême.
Quel est votre métier ?
Comédienne marionnettiste, on peut expliquer en quoi ça consiste. On va animer les marionnettes, les manipuler, leur prêter notre voix aussi. On va faire différentes voix. On est aussi parfois comédienne sans la marionnette sur certains spectacles. Et après, pour ce qui concerne le côté plastique, quand on dit qu'on est plasticienne, ça veut dire qu'on va construire des marionnettes. Il y a aussi le travail d'entretien des marionnettes. S'il y en a une qui se casse, on va aller la réparer, regarder un peu les fragilités ou essayer de leur mettre un peu de maquillage si c'est un peu parti.
Et pour compléter, du coup, quand on travaille sur la reprise d'un spectacle qui fait partie du répertoire de la compagnie, on peut apporter un regard extérieur pour aider nos collègues à avoir des mouvements de manipulation clairs, pouvoir montrer ce que l'autre fait et qu'ils puissent comprendre comment il fait bouger la marionnette ou l'objet et puis pouvoir appliquer ou pas les gestes qu'il est en train d'intégrer et de répéter. Donc il y a cet aspect-là de mise en scène aussi qui est assez important. Et tout à l'heure, on parlait de comédienne, pas forcément avec les marionnettes, c'est parce qu'on fait aussi du théâtre d'objets ou du masque, enfin des champs plus larges qui appartiennent aux arts de la marionnette, mais qui ne sont pas de la marionnette à proprement parler.
Ça me fait penser aussi, enfin je complète un peu ce que tu dis sur les différentes facettes du métier. On est une petite compagnie avec une petite équipe, ce qui fait qu'on va faire plein de postes différents. Par exemple, pour le spectacle qui se prépare en ce moment, je vais être à la mise en scène. Sur d'autres spectacles, ce sera Inès qui le sera, ou sinon ce sera Tom, qui est technicien mais qui fait aussi partie de l'équipe artistique et qui a aussi son regard, qui prête aussi son regard pour les mises en scène. Et du coup, on va un peu échanger toutes les casquettes, soit en fonction des spectacles, soit au fil de la saison.
Où exercez-vous votre métier ?
On l'exerce au théâtre de poche, Michel Bellesi. C'est là où la compagnie principalement exerce ses répétitions et ses moments de représentation. Le fonctionnement de la compagnie, c'est 4 spectacles à la saison. Donc une saison, c'est comme une année scolaire, du mois de septembre jusqu'à peu près mai-juin, quand on se rapproche des vacances d'été. Et on suit chaque vacance scolaire. À chaque nouvelle vacance, on va proposer un nouveau spectacle. Et également, on reçoit aussi des compagnies invitées qui viennent présenter leur spectacle au sein du théâtre. Mais on a également d'autres lieux dans lesquels on va exercer notre métier. On a un bureau notamment avec des ateliers qui nous sont mis à disposition pour travailler sur la fabrication des décors, des marionnettes ou des temps de réflexion, de réunion. Et puis on a un espace de stockage. Je ne sais pas si tu veux rebondir ou compléter.
Il y a un peu plus d'une dizaine de spectacles au répertoire. La compagnie, elle a une cinquantaine d'années, donc il y a eu des spectacles qui ont été mis de côté, parce que l'idée, c'est de toujours créer de nouveaux spectacles. On fait de la marionnette contemporaine. Mmh. Mais du coup, tout ça, ça prend de la place. Et donc, effectivement, il y a besoin d'avoir un grand local. Là, pour le moment, c'était un local de 170 mètres carrés, mais on est à la recherche d'un autre, parce qu'il est plus pérenne. Mais du coup, il faut de la place, quoi.
Qui sont vos collègues ? Comment s'organise le travail avec vos collègues ?
Très mal.
Mmh. Ben on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Dans nos collègues, nous avons Claire Gabriel, qui est la chargée de production.
Communication, etc. Couteau suisse administratif.
Voilà. Elle va travailler plutôt sur des missions d'accueil du public au moment où les spectateurs arrivent. Elle prend les réservations. Elle va être à la billetterie. Elle va faire transmettre au bureau de la compagnie, puisque c'est une association. Elle va transmettre au bureau des informations. Et puis, elle va communiquer donc, sur les spectacles par des affiches, des visuels, des photographies, des vidéos. Enfin, voilà, elle a vraiment des volets très, très larges dans son travail. Et c'est elle également qui réalise tous les aspects administratifs qui font tenir aussi un confort dans notre travail. C'est qu'elle réalise nos fiches de paye, les déclarations à Pôle emploi, etc., auprès des différentes structures auprès de qui il faut déclarer notre travail.
Et également Tom, mais que je vais présenter brièvement, vu qu'il va faire une interview également, mais qui donc est le technicien de la compagnie, qui s'occupe du son, de la lumière, de l'organisation aussi au plateau, de voir pour que tout se passe bien. Là, il y a le côté vidéo aussi, donc ça c'est le côté plutôt technique, mais il y a aussi le côté, sa participation au sein de l'équipe artistique, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, où il participe aussi à l'écriture des spectacles, à la mise en scène sur certains spectacles, etc. Et après, pour le reste de l'équipe, il y a Inès et moi, pour le moment, en comédienne marionnettiste. Et l'an prochain, on va accueillir Chloé, qui sera également comédienne marionnettiste, puisque la plupart des spectacles sont écrits pour être joués avec 3 marionnettistes. Il y a des spectacles qui se jouent à 2, d'autres à 3. On avait besoin de renfort, et elle va arriver en septembre. Et je crois qu'on a présenté un petit peu les pôles de tout le monde, mais il y avait aussi la question de comment on s'organise entre nous. C'est ça ? Je me suis perdue. C'est assez fluide et ça se passe très très bien. Et comment on s'organise ? En fait, on se voit très souvent. Il y a du coup pour l'équipe artistique, donc Inès, Tom, moi et prochainement Chloé, en fait, on est tout le temps, enfin quasiment tout le temps ensemble. Claire, quand on est en répétition, elle est aux ateliers qui sont dans les quartiers de Bassot. Nous, pendant les temps de répétition, on est au théâtre et du coup, on fait le pont avec elle en s'appelant ou on mange ensemble le midi. Ça nous permet de passer les relais. Et après, une fois qu'il y a les représentations, tout le monde est au théâtre et on joue jusqu'à la fin de la programmation. Et après, on s'organise par pôle aussi. On se donne des missions.
C'est ce sur quoi je voulais rebondir. On a des outils qui nous permettent d'optimiser le travail. On a par exemple, on parlait de s'appeler avec Claire quand elle est au bureau à Bassot et que nous, on est au théâtre. On a également des applications type Discord sur lesquelles il y a des salons de discussion et qui nous permettent de répertorier selon les spectacles. On a un point spécifique à aborder, donc on va l'écrire sur Discord. Sinon, on a aussi des outils plutôt reliés à Gmail avec un calendrier où on peut mettre des missions. On fait souvent, des listes qui nous aident aussi à nous repérer dans le travail, les échéances à respecter. Qu'est-ce qu'il nous reste à construire, à fabriquer, quelles marionnettes il faut réparer, par exemple, avec quels outils, s'il faut aller faire des courses. On a ces outils-là qui nous aident à la fois à communiquer et nous organiser.
On n'a pas de patron non plus. Du coup, on s'organise entre nous et on décide ensemble de ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, etc. Et par exemple, pour la saison prochaine, on s'est réparti des missions. On se dit qu'on est porteur de projet. Inès va être porteuse de projet, elle va porter la prochaine création, la prochaine mise en scène qui sortira dans 2 saisons. Donc elle a 2 ans pour préparer tout ça. Et 2 ans, c'est bien. parce que on se dit, oh, 2 ans, c'est long. Mais en fait, sur ces 2 années, mine de rien, on joue 4 spectacles différents sur l'année. Donc, pour chaque spectacle, il faut bien 3 semaines de répétition minimum. Ensuite, il faut jouer. De temps en temps, on a des ateliers de médiation. Donc, on peut aller soit dans des écoles, soit dans des centres de loisirs, etc. Mais tout ça, ça prend du temps. Et du coup, c'est pas 2 ans au complet. Et pour revenir sur cette répartition des missions, en gros, on se dit, l'an prochain, c'est quoi les grands axes? Il va y avoir la prochaine création que Inès va porter sur 2 années. Moi, je vais être porteuse de projet sur une reprise où il y avait des choses un peu à améliorer. C'était un spectacle qui marche, qui roule, mais il y a des marionnettes à refaire. Dans l'histoire, dans la dramaturgie, il y avait un peu mou, peut-être qu'il faudrait changer ci ou ça. Du coup, je vais me missionner là-dessus. Tom également est missionné sur une autre reprise. Et l'idée, c'est que ça tourne tout le temps. Et que pour les prochaines créations, que ça change tout le temps de porteuse de projet pour que les esthétiques soient multiples.
Pouvez-vous nous décrire une journée type ?
Il n'y en a pas. Si, en ce moment, ça va.
Oui. Alors, je vais commencer et puis tu pourras compléter ou prendre le relais parce qu'on n'a pas les mêmes missions en ce moment avec Manon. Moi, personnellement, je suis interprète sur la prochaine création que porte Manon qui s'appelle Aquarium. Et j'arrive donc chaque matin entre 9h30 et 10h avec la possibilité de m'échauffer, ce qui est fortement recommandé. Et donc de me changer, quitter mes vêtements usuels pour prendre une tenue de travail qui correspond à une tenue de marionnettiste, donc plutôt une tenue sombre qui peut se fondre dans le décor. Donc j'ai ce laps de temps-là pour me préparer. Et à 10h, nous commençons les répétitions au plateau. Donc quand on dit au plateau, c'est qu'on va sur scène, on commence à prendre le texte avec nous, les marionnettes, voir en lumière avec le son. Soit on va répéter les scènes qu'on a déjà travaillées, soit on va bâtir ou dessiner des canevas pour continuer la progression en fait, dans les scènes qu'on travaille et essayer d'explorer l'ensemble du spectacle pour qu'il soit prêt d'ici la première. Public. Voilà, donc le matin, on travaille le texte et le spectacle avec des répétitions corporelles pour les marionnettes. Et puis, il y a une pause déjeuner. Après cette pause déjeuner, on reprend les répétitions au plateau. Et nous arrêtons aux alentours de 16h30 jusqu'à 17h30 pour essayer de nous missionner individuellement sur des temps de bricolage. Donc ça peut être coller une anémone sur un rocher, ça peut être remettre du latex sur une marionnette, c'est assez ouvert en fonction des priorités.
Ces temps de bricolage, ils sont importants, peut-être plus que sur d'autres reprises, parce que c'est une création. Donc les marionnettes, elles ont été créées cette année, les décors également. Même si on a pu anticiper ça comme on le pouvait au mieux, en fait, il y a toujours des choses qui ne sont pas terminées et le spectacle, il faut qu'il soit prêt au 19 avril. Donc, le fait de garder ces temps de bricolage tous les soirs et parfois, on se garde aussi tout le vendredi après-midi. Une fois, on a fait ça pour coller toutes les algues parce qu'en fait, ça prend du temps et c'était seulement sur un des 2 éléments de décor principal. Ça permet de continuer d'avancer la création. En termes de calendrier aussi, là, on s'est mis 5 semaines et demie de répétition, voire 6, je crois. Quand c'est une reprise, on est plutôt sur 2 semaines et demie, 3 semaines. Ça demande plus de temps parce que il faut qu'on essaye ce qui marche pas, en fait. Quand on fait une reprise, il y a déjà des choses qui ont été essayées. On sait ce qui marche, ce qui fonctionne pas, et du coup, on peut toujours modifier certaines choses pour rendre le spectacle soit on trouvait qu'il y avait certaines choses qui marchaient pas très bien et on a envie de le rendre meilleur, ou peut-être que des fois on a envie de le percevoir avec un autre regard, de changer un petit peu l'atmosphère du spectacle, et on peut réajuster ça. Mais dans le temps de création, il va y avoir tout ce travail-là, mais il va aussi falloir essayer des mouvements. On peut se dire, sur le papier, je me suis imaginé à l'écrit que ce mouvement-là, ça va trop bien marcher. Et cette marionnette-là, elle va faire ça, 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 ça va être trop beau. Et en fait, on l'essaye au plateau et en fait, c'est trop moche ou personne ne comprend. Et c'est normal, ça fait partie de notre métier. Mais du coup, ça étire un peu ce temps de répétition-là. Pour le planning de journée qu'Inès a présenté, on va se dire que c'est notre planning de journée type de répétition. Que ce soit en création ou en reprise de spectacle, on essaye de se faire ça. Échauffement le matin, ensuite on est au plateau sur scène pour travailler les différentes scènes et donner vie aux marionnettes. Et en fin d'après-midi, on se garde un temps de bricolage. Sinon, quand on joue, on peut jouer 2 à 3 fois par jour. Souvent, c'est des spectacles qui vont durer 45 minutes. Et on ouvre les portes du théâtre une demi-heure avant le début de la représentation. Donc si on joue à 10h30, si le spectacle commence à 10h30, ça veut dire que le public peut rentrer à 10h. Donc ça veut dire qu'à 10h, il faut que tout soit prêt. Donc ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va faire la mise. La mise, c'est dans le jargon de marionnettiste, c'est quand on va placer toutes les marionnettes, tous les accessoires, tous les décors, tels qu'ils doivent être placés au début du spectacle, pour que le spectacle se passe bien. Donc on va faire la mise et on va également s'échauffer. Donc il y a tout ça à prendre en compte dans une journée de représentation. Et après, sur le temps de bricolage, je pense aux différentes journées qu'on peut avoir. sur les temps de bricolage, si on n'est qu'en construction sur une journée, on va essayer de se garder un rythme cohérent. C'est de 9h30 à 17h30. Globalement, on se garde ça comme axe de travail. Et après, on va avoir des journées, des fois, qui vont s'étirer. C'est soit si on a un coup de bourre, qu'il faut absolument qu'on termine telle ou telle marionnette, ou sinon, par exemple, quand on est en tournée. Ça arrive qu'on parte en tournée, et du coup, ça veut dire charger le camion avec tous les décors, toutes les marionnettes. Est-ce qu'on le fait la veille ou non? Ensuite, il faut prendre la route. Donc, ça veut dire conduire, avoir le temps de route pour arriver sur place. Ça veut dire décharger, tout installer, tester les lumières, le son, ça peut prendre la journée, ça. Ça dépend des spectacles, ça dépend des installations, ça dépend de à quel moment on donne les clés du théâtre ou de la salle où on joue. Et ensuite, il faut jouer et parfois tout remballer dans la même journée. Donc ça fait des journées à rallonge. Ça peut faire du 9h du matin, 23h. Ça peut faire facilement des journées très très grandes. Mais la plupart du temps, on reste au théâtre de poche sur la plupart des représentations.
Y a-t-il des risques dans votre métier ?
Moi, je dirais spontanément des risques physiques. Si on ne prend pas soin de nous, on parlait d'échauffement tout à l'heure sur la journée type. C'est important de préparer son corps à ce qui va advenir, que ce soit en répétition ou en représentation. On ne s'en rend pas forcément compte, évidemment, que c'est physique la marionnette, parce que c'est comme le cirque, il faut que le résultat soit plutôt joli et qu'on cache les efforts. C'est comme ça que se fait aussi la magie du spectacle vivant. Mais en attendant, ça reste un entraînement physique où il y a il y a un rapport au poids avec les objets qu'on manipule ou qu'on porte. Il y a aussi le rapport d'ancrage au sol quand on va se déplacer. Il y a aussi le travail du regard périphérique. Ça, c'est je peux regarder quelqu'un face à moi, mais je peux aussi voir ce qui se passe autour de moi en même temps. Mais là, je m'éloigne un petit peu quand même de la question. Donc là, c'est plutôt risque physique. Et puis après, en effet, si on ne respecte pas un bon cadre de travail, il peut y avoir aussi la santé mentale qui peut être affectée. Mais ça dépend de l'entente entre les équipes et des horaires et des enjeux, de la pression. Mais ce n'est pas le cas ici.
Ici, tout va bien. Mais effectivement, si c'est qu'on est sous pression parce qu'on a mal évalué une deadline ou si des collègues n'arrivent pas à s'entendre, mine de rien, c'est vrai qu'on est sur la même scène. Et du coup, si à manipuler la même marionnette, par exemple, ou le même objet, et ça prend enfin, je trouve, comparé à d'autres métiers que j'ai pu faire avant, je trouve que ça prend plus de place dans l'affect ou du coup quand je rentre chez moi aussi. Si ça se passe bien, c'est super, et s'il y a eu une journée qui a été plus compliquée, ça va plus m'atteindre que dans un autre métier. Ça peut aussi plus m'atteindre si, par exemple, j'ai estimé avoir raté une marionnette. Ça va plus m'affecter qu'une fois où j'avais mal, je ne sais pas, où je m'étais trompée de prix sur une vente de tickets de bus. Ça n'a pas le même impact. Et après, sur la fatigue mentale, c'est si on veut s'épuiser à vouloir toujours bien faire, toujours vouloir bien faire, et en fait à étirer le temps et à passer trop de temps, effectivement, ça peut être quelque chose où il faut être vigilant par rapport à ça, à ne pas se laisser happer par le projet, mais là, pour le moment, tout va bien. Et où là, ça se passe bien, mais quand j'étais en stage ou de discours d'amis, ou moi, auparavant, c'est vrai que c'était un peu des red flags qui pouvaient un peu apparaître, pas spécialement pour moi, mais où, enfin, ça arrive que les gens ils soient épuisés par ce travail-là. Et après, pour compléter sur le côté, là, tu as parlé du corps, en gros, pour les échauffements, pour s'échauffer, pour pas se faire mal, avant de manipuler les marionnettes à bout de bras, pendant des heures, de la santé mentale. Et on peut aussi parler de, je pense, des produits chimiques qui sont utilisés en plastique, que c'est important de se protéger, de mettre des masques à cartouches, parce qu'on peut utiliser des produits qui sont pas très bons pour la santé, par exemple, enfin, de la colle néoprène, du latex, le solvant, ça va être de l'ammoniac. Alors si on en fait un petit peu, ça va, mais si on en fait toute la journée, bon, faut faire un peu attention. Le travail du bois, si on a plein de petites poussières, mettre des lunettes pour pas se prendre des éclats dans les yeux, ce genre de choses là quoi, qu'il faut un peu se protéger, s'équiper selon ce qu'on fait.
Quelle étude faut-il faire pour faire ce métier?
Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a plusieurs chemins, déjà. Il n'y a pas qu'une voie pour faire ce métier, il y en a plusieurs. Et il y a des voies qui passent par les études, en effet, mais il y a aussi des voies qui passent sans les études. Ce qui est important, c'est le chemin qu'on choisit ou qu'on ne choisit pas, parce que parfois c'est aussi des rencontres qui vont faire la différence, un spectacle qu'on va aller voir, qui vont nous provoquer un déclic et on va se dire c'est ça que je veux faire de ma vie. C'est assez spécifique pour chacun. Après, on peut évoquer le fait que il existe deux conservatoires en France pour les arts de la marionnette. Il y a une école nationale supérieure qui délivre un diplôme reconnu par l'État. Et après, il y a également la possibilité de faire des stages auprès de compagnies ou de proposer ses propres spectacles et de débuter de cette manière-là. En fait, c'est assez ouvert.
Ouais. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme pour exercer ce métier-là. Après, il y en a qui existent. Il y a différents chemins, mais je vais te répéter en fait.
J'ai pas abordé l'aspect théorique avec l'université,
oui,
qui existe aussi.
Qui existe et pour le coup, moi, ça m'a bien servi. J'ai pas du tout je suis pas allée dans un conservatoire ou j'ai pas un cursus théâtre dans la pratique. Par contre, au début, j'ai fait des études de lettres et ensuite je me suis tournée vers une licence d'art du spectacle, puis un master en art du spectacle. Et le fait d'être étudiante à la fac, ça m'a permis d'avoir des conventions de stage, en fait, de démarcher auprès de compagnies de marionnettes. Mais c'était des candidatures spontanées. Et je me suis griffée, du coup, sur différents projets, pas mal sur de la construction, un peu en regard extérieur aussi, des choses comme ça. Et tout ça m'a amené à pouvoir me former, rencontrer des gens aussi, et à me dire, OK, c'est vraiment ce métier-là que je veux faire. Donc la fac m'a servi d'une certaine façon. Ça m'a servi, mais j'aurais pu passer par d'autres chemins. J'aurais pu directement aller voir des compagnies, ou j'aurais pu faire une formation plus pratique et plus ancrée vraiment avec la marionnette. et tout se vaut, en fait. Il y a beaucoup de marionnettistes, j'ai l'impression aussi, qui ont des parcours multiples. Il y en a qui ont fait des études de philosophie pour ensuite arriver vers de la marionnette. D'autres qui étaient ébénistes, avec un parcours un peu plus... avec un rapport plutôt à de la matière et à l'objet, et qui ensuite se sont tournés vers la marionnette. De tout, quoi.
Avez-vous pensé à faire ce métier quand vous étiez enfant?
Je voulais être clown, ça ressemble.
Moi, mon rêve, c'était d'être danseuse étoile.
Ça ressemble aussi.
La marionnette, moi, quand j'étais enfant, même si c'est souvent un art qui est associé aux enfants, je connaissais pas forcément. Du coup, c'est quand j'étais enfant, je me disais pas que je deviendrais marionnettiste plus grande. Mais c'est à l'université où j'ai eu un déclic, parce que je participais à un cours de travaux dirigés autour du stop motion. Stop motion, pour être un peu bref et rapide, c'est des techniques d'animation manuelle où on sait de la prise photographique photo par photo, et c'est le montage de ces photos qui vont créer le mouvement. Et c'est ce qui m'a fait découvrir la marionnette.
Selon vous, faut-il être bon à l'école pour faire ce métier ?
Non, pas spécialement. Il faut être passionné. Je pense que c'est un métier où la marionnette, c'est pas anodin. Je pense pas qu'on devienne marionnettiste comme ça. C'est qu'on a envie de le devenir, je pense. Et où on va chercher à soit créer ses formes, soit on a envie d'exprimer quelque chose très fortement. Et du coup, ça va passer via ce médium. Soit on va chercher à rencontrer des gens qui gravitent autour de la marionnette pour construire des projets ensemble ou participer à un projet qui existe déjà. Mais ça ne veut pas dire être bon à l'école, ça veut dire être passionné par quelque chose qui nous anime. Et il y a de toute façon tellement de compétences qui sont requises sur, sur le métier de marionnettiste, qu'on est obligé d'être mauvais sur l'un d'eux. Là, si on... C'est vrai, il y a trop de choses à faire. Et c'est pas grave, et c'est OK. Et tout se complète. Et en fait, on n'aura jamais terminé d'apprendre. J'ai fait plein de stages en construction. Et en fait, quand je construis quelque chose, j'ai l'impression de rien savoir. Et en même temps, après, je fais quelque chose et j'ai l'impression de déjà savoir tout ça aussi. Et que... là, je faisais la blague à dire « Oh, on est obligé d'être mauvais quelque part dans le métier de marionnettiste. » Mais c'est plus... C'est davantage sur le fait qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et qu'il y a le temps pour apprendre tout ça.
Le salaire est-il suffisant pour vivre ?
Oui. Je dis un oui, mais qu'il faut expliquer. on est intermittente. Donc ça veut dire qu'on... je sais pas trop comment expliquer... Oui.
C'est un régime qui est délivré par Pôle emploi, qui nous permet d'alterner. En fait, le régime de l'intermittence te permet d'alterner des périodes travaillées et déclarées avec des périodes où tu es rémunéré, enfin indemnisé plutôt, indemnisé pour préparer les futures périodes travaillées. Donc techniquement, on travaille tout le temps, mais on n'est pas déclaré tout le temps. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer.
En gros, la recherche de... Enfin, pardon, je t'ai repris le mot. Mais quand on va rechercher d'autres idées de spectacles ou pour des comédiens qui vont chercher à jouer avec différentes compagnies, le temps de postuler, de passer les auditions, etc., ça va être un temps qui ne va pas être rémunéré quand on passe une audition ou quand on va se dire « Ah tiens, j'aimerais bien monter tel projet ». Mais pour autant, il faut bien que les personnes vivent de leur métier-là, et du coup, ces temps de recherche-là, ça va être, on va pouvoir vivre avec l'intermittence. Après, il va y avoir, enfin, toute l'économie du spectacle vivant, du coup, est basée sur cette économie-là. Mais pour être intermittent, il faut avoir cotisé à suffisamment d'heures. 507, si je ne me trompe pas.
Oui. Ou 42 cachets, si je ne dis pas de bêtises. Sachant qu'un cachet, c'est 12 heures. Ça équivaut à 12 heures de travail. Et c'est en général, un cachet, c'est sur un moment de représentation, quand on joue un spectacle. Et sinon, il y a des cachets de répétition. Ouais. Ça alterne entre cachets de représentation et répétition.
Ce qui veut dire que c'est... Ben, il y a des fois où on travaille parce qu'on va se dire « Ah tiens, je réfléchis à tel ou tel projet » ou « Je prépare une audition ». Donc on travaille, mais en fait, ça vaut zéro heure. Et après, on va jouer, donc ça va être 45 minutes, plus le temps de s'installer, tout ça, etc. Si on joue deux fois dans la journée, c'est 4 heures, 4-5 heures de travail. Mais il y a la fatigue du jeu. Et en fait, on va être déclaré 12 heures. Donc en fait, ça veut rien dire. Enfin, ça veut rien dire. C'est pas représentatif du tout des vraies heures qui sont effectuées. Si on accède à ces, enfin si on a de quoi présenter les 507 heures à France Travail, maintenant c'est plus Pôle Emploi,
et oui, pardon.
À France Travail, ça permet du coup d'être intermittent et du coup d'avoir ces ARE. Donc l'ARE, c'est ce qui nous est versé les jours où on n'a pas de déclaration. Et le minimum va être à peu près un SMIC. Si... J'ai pas envie de dire de bêtises, mais en gros, je pense que si on a 507 heures qui sont déclarées au minimum, on va avoir un SMIC. Et après, soit on peut avoir des gros cachets. Par exemple, un artiste qui est hyper connu, il peut demander un cachet à 100 000 euros. Je sais pas, mais demander beaucoup d'argent. Et du coup, il n'a plus besoin des ARE de France Travail, mais où du coup, il va avoir plus que le SMIC aussi. Et sinon, ça va être même si on est au minimum dans la déclaration du cachet, mais qu'on a fait beaucoup, beaucoup de déclarations sur l'année, ça va augmenter les sous versés par France Travail. Je ne sais pas si c'était clair ou pas.
Oui, parce qu'il y a une différence entre le taux et la valeur monétaire de l'indemnisation. Enfin, les deux sont connectés. Voilà. Et ça modifie donc notre salaire.
Qu'est-ce qui vous fait garder de la motivation pour rester dans votre métier ?
On se marre bien.
Moi, je dirais tous les moments... où on est dans la recherche, dans la création, jusqu'au moment où on le partage avec un public. Il n'y a pas meilleur cadeau que ça.
Oui, je te rejoins. Et le fait aussi que ce soit toujours différent, on va toujours travailler sur de nouveaux projets, on va toujours chercher effectivement quel mouvement fonctionne ou non. J'adore faire plein de voix différentes, des grosses voix, des voix rocailleuses, des voix de grand-mère, des voix de bonhomme, des voix de petite fille, et c'est quelque chose que je peux faire. J'adore animer les objets, et il y a le côté jeu aussi qui m'amuse. Et après, effectivement, le fait aussi de partager ça avec d'autres personnes au plateau, ça c'est vraiment quelque chose de formidable. Et après, le partager avec le public, ça c'est super aussi. Et d'avoir les réactions qui changent à chaque fois. Il n'y a pas une représentation qui est pareille. Même si on les joue un peu sur un format à la chaîne, là, parce qu'à chaque fois, on joue deux à trois semaines, deux à trois fois par jour. Donc ça s'enchaîne, mais elles sont toutes différentes.
Merci d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir consacré du temps. Bonne soirée, au revoir et bonne continuation.
Merci à vous. Merci beaucoup, vous aussi.